Le domaine des possibles, une émission proposée par Christian Faure.
Amis auditeurs du domaine des possibles et amateurs de nouveaux possibles, bonjour. Dans le domaine des possibles et dans un contexte où un public toujours croissant s'interroge et s'intéresse au développement des différentes alternatives, il y a des gens qui consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie à mettre sur pied des projets alternatifs qui s'inscrivent dans une démarche de partage, d'initiative citoyenne, avec des valeurs culturelles, des valeurs d'écologie et de fraternité. Il en est un de ces projets, et c'est celui dont nous avons choisi de vous parler aujourd'hui, qui est en train de naître du côté de Clémenceau, à Montpellier, qui pourrait devenir une sorte de tiers-lieu, de café philo, de cantine, d'espace culturel et social, de lieu de rencontre, d'échange, de croisement, de connexion. Les deux femmes qui portent ce projet, aussi ambitieux que novateur, se connaissent depuis leurs années de fac à Grenoble et ont rêvé depuis longtemps déjà de créer ce lieu. Après un parcours universitaire plus ou moins commun à toutes les deux, elles sont parties chacune de son côté enrichir leur savoir de voyages intérieurs ou de voyages touristiques pour atterrir enfin dans la ville de leur choix. Notre belle ville de Montpellier. Je reçois donc aujourd'hui les deux bâtisseuses et les deux protagonistes de ce projet, Marion Sourd et Fanny Angealbert. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
J'aimerais dans un premier temps qu'on parle un petit peu de la genèse de ce projet, que vous nous expliquiez un peu d'où c'est parti, que vous nous parliez des origines. Je crois qu'il y a, au début de ce rêve commun, il y a une association que vous avez créée qui s'appelle ADEMAS. Et je vous laisse continuer là-dessus.
Tout à fait, donc ADEMAS qui est l'acronyme de Association pour le développement des mixités artistiques et sociales et des solidarités. Donc une association qu'on a créée avec l'ambition de construire ensemble des projets, des lieux et des occasions de faire converger les enjeux du domaine culturel, de la création artistique, les enjeux, on va dire, plus sociaux et citoyens, et de créer des projets voilà, un peu hybrides et porteurs de sens à ce niveau-là. Association qu'on a créée en 2015, voilà, avec déjà cette idée de l'intérêt, de l'importance de créer des lieux qui... fasse se croiser ces dimensions culturelles et citoyennes. Et voilà, on avait à l'époque, on commençait à y réfléchir de façon concrète à Paris. On a répondu à un appel à projet, voilà, pour voir si ça pouvait faire sens. Et on a voilà passé une première phase d'appel à projet. Après, on s'est dit que c'était pas à Paris qu'on voulait le faire, donc on s'en est arrêté là.
Il nous manquait quelques millions aussi.
Et il nous manquait quelques millions d'euros aussi.
Des choses qui arrivent.
C'est un détail. Et voilà, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit tiens, et pourquoi pas à Montpellier, parce qu'on avait des attaches personnelles toutes les deux avec cette ville.
D'accord.
Et ça a du coup l'aventure d'ADEMAS a vraiment commencé en 2016-2017 à Montpellier avec la création d'un événement d'un festival culturel participatif, la Grande Parade Métèque, qui aura lieu pour la troisième année cette année. Voilà, peut-être on peut dire un mot rapidement.
Ça se passe à quel moment, la Grande Parade Métèque ?
Alors, ça se passe toute l'année, avec un final, on va dire, un point d'orgue avec une journée de festival dans le parc de la Guirlande qui a lieu au mois de mai. Donc, cette année, a priori, ce sera le 4 mai 2019. Mais c'est c'est une journée de festival à la fois culturelle, citoyenne, puisque voilà, il y a à la fois une pluridisciplinarité dans les propositions artistiques et en même temps dans les propositions citoyennes. Cette journée se construit tout au long de l'année. Avec une programmation participative qui est vraiment ouverte à, aux habitants, aux artistes, aux écoles, aux associations, aux militants qui souhaitent y contribuer.
Oui, peut-être juste un petit
Alors
mot.
Fanny, ouais.
L'objectif de ce festival participatif, de ce projet participatif, c'est de donner un regard un peu différent sur notre interculturalité et l'histoire des migrations qui sont constitutives de notre histoire commune. Voilà, donc c'est un sujet assez vaste. Les supports d'expression qu'on propose dans le cadre de ce festival sont assez vaste aussi, du propos le plus militant au propos le plus artistique, poétique, ou au partage finalement simple finalement d'une expérience lors d'une journée d'échange et de fête. Voilà, puisque le but est que chacun puisse s'approprier cette question à sa manière et d'apporter un regard différent sur cette problématique.
D'accord.
Voilà, donc c'est un projet qui se construit tout au long de l'année et finalement qui évolue un peu d'année en année, puisque on est pris par l'élan, par les encouragements qu'on reçoit chaque année. Donc chaque année, on développe un peu plus. Donc avec des rencontres mensuelles, les cafés Métec, une fois par mois, tout au long de l'année, avant l'événement au mois de mai. Les ateliers artistiques participatifs, où on propose à des artistes professionnels d'inviter des participants amateurs à réfléchir avec eux à cette problématique à travers du théâtre, de la BD, enfin différents supports, voilà, qui ont pour but aussi d'impliquer finalement les habitants du quartier Figueroa-Gelli dans cet événement. Et puis cette année, nouveauté, les résidences de territoire. Donc cette année, on soutient une résidence théâtrale, d'une création qui interroge la question de l'identité, et une création d'un jeu, un parcours ludique dans le quartier de Figueroa qui aura pour but de mettre en valeur le patrimoine mémoriel de ce quartier, et notamment ces différentes vagues de migration.
Et du coup, en fait, c'est toutes ces activités qui vous ont amené à vous poser la question d'un lieu où, parce qu'on a l'impression finalement que vous avez beaucoup de rencontres mensuelles, mensuelles, et qui donc, vous n'avez pas de lieu dédié. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux choses alors ?
Oui, alors il y a un rapport, c'est sûr. Je dirais que c'était plutôt de manière inverse que s'est posée la question. C'est-à-dire qu'on avait très envie au départ de porter un projet de lieu hybride, de lieu qui change un peu les usages habituels, justement. Moi, je viens du secteur plutôt culturel. J'ai travaillé dans le spectacle vivant pendant des années. Marion, plutôt du secteur social et des solidarités. Et en fait, on avait envie de créer un lieu, comme il n'en existe pas tellement à Montpellier, qui croise les problématiques culturelles, sociales, et voilà, qui sortent un peu aussi des...
Et qui sont un lieu de mixité, à la fois de mixité des usages, des activités, et un lieu de mixité des publics.
D'accord.
Donc voilà, notre point de départ était vraiment celui-là, et puis en fait on a eu envie de porter un premier projet plutôt sur un format plutôt événementiel en effet, mais ce qui est important à dire, c'est que ce qu'on fait dans le cadre de la Grande Parade Métèque, finalement la méthode qui est appliquée dans le cadre de la Grande Parade Métèque, qui est à la fois de changer aussi un peu les types de programmation qu'on peut retrouver dans des lieux culturels de manière générale, où il y a une programmation très verticale, mais finalement de proposer une programmation participative. Donc voilà, ça on le retrouve vraiment aussi dans le projet de lieu. Et aussi l'idée de faire des croisements entre secteurs d'activité et entre personnes, puisque la mixité est vraiment aussi un enjeu central finalement dans le projet d'ADEMAS, donc à la fois dans le projet de festival et dans le projet de
dans
lieu
projet
qu'on entend.
Lieu aussi.
Voilà.
D'accord. D'accord, ok. Et donc là, vous nous avez défini finalement un peu les deux choses, c'est-à-dire le projet d'ADEMAS au départ et le projet de votre lieu en même temps. Et donc j'ai déjà reçu ici des représentants de lieux qu'on va appeler alternatifs sur Montpellier. Et donc je pense au Faubourg, qui était Jérôme était mon invité la dernière émission qu'on a fait ici. J'avais reçu quelqu'un qui représentait la Carmagnole aussi. Et finalement, on est un peu toujours dans l'idée du lieu. Donc finalement, qu'est-ce qui va vous différencier de la Carmagnole, du Faubourg, ou qu'est-ce qui va vous rapprocher d'eux ? Est-ce que vous allez collaborer entre vous ? Enfin voilà, toutes ces questions que les gens vont se poser.
Alors ce qui est certain, c'est qu'on est dans le même écosystème et qu'il y a une communauté de valeurs entre ces projets-là et les nôtres. Et même plus, puisque je dirais que c'est des projets partenaires ou amis, partenaires de façon très précise avec le Faubourg, puisque ce projet de lieu n'est pas porté par ADEMAS. Ce projet de lieu est porté par un collectif d'acteurs dont ADEMAS fait partie et dont le Faubourg fait partie depuis l'origine. D'ailleurs, le Faubourg était déjà... avait déjà repéré le local à Clémenceau sur lequel on développe ce projet, et se posait la question pour répondre à des besoins identifiés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire pour des espaces de travail notamment de grande dimension, de se positionner sur ce local. Et c'est de notre rencontre aussi avec le Faubourg et notamment la Cagette aussi qui s'était intéressée à ce projet, qu'est né le projet de la nouvelle bridgerie tel qu'il est actuellement et qui est un projet vraiment indépendant puisqu'il est porté par ce collectif d'acteurs, pour le moment organisé en association mais à terme organisé en coopérative. Donc il y a des convergences très fortes entre ces projets. Peut-être que finalement le projet de la nouvelle Bridgerie, il sera un peu un mélange aussi du projet du Faubourg, puisque dans la continuité de mise à disposition d'espaces de travail et d'expérimentation pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la mise à disposition de bureaux. Mais avec un volet ouverture au public, café culturel qui n'est pas tant présent dans le Faubourg et qui par contre en revanche est très présent dans le projet de la Carmagnole, avec qui on discute aussi dans l'idée de pouvoir se être complémentaire et se potentialiser pour se renforcer sur de la programmation, sur des initiatives. Après, le point de départ est un petit peu différent entre.
Ouais, alors c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui va vous différer de ces autres lieux, donc.
Oui, le point de départ est un peu différent dans le sens où la Carmagnole, au départ, c'est plutôt un groupe de citoyens militants qui ont eu envie de faire exister un lieu pour leur lutte, ce qui est très intéressant comme démarche. Le Faubourg, lui, c'est vraiment un espace de travail qui, après, a envie de réfléchir autrement, évidemment, au travail et donc créer aussi des temps d'échange autour de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que nous, on est un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que ça va être la nouvelle Bridgerie. Une mini parenthèse, la nouvelle Bridgerie, c'est le nom provisoire du projet, puisqu'en fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça pour l'instant, en tout cas, parce que c'est un projet qui a vocation à exister dans le lieu qu'on appelait communément la Bridgerie, qui accueillait en fait le club de bridge depuis 15 ans. Voilà, la Bridgerie existe toujours, elle a juste déménagé après la reine, et voilà, c'était un petit clin d'œil à l'usage passé de ce lieu que nous, au départ, quand on a commencé à le connaître, on entendait la Bridgerie. Voilà. Mais le nom du lieu est mis en discussion de manière participative, puisque lors des journées de portes ouvertes qu'on a organisées il y a 2 semaines, on a proposé aux gens qui sont visiteurs finalement de proposer des noms, et évidemment aux partenaires aussi, et donc on va essayer après de mettre en réflexion ce nom. Voilà, c'était une petite parenthèse. D'accord, mais pour expliquer l'origine du nom,
c'est bien.
Ça paraissait important.
Était sur la différenciation entre vous et les autres,
qu'est-ce que ça va être la nouvelle Bridgerie? Donc c'est un lieu de travail, en effet, puisqu'il y aura des bureaux permanents. Un lieu de travail aussi, puisqu'il y a une grande salle dans cette ancienne Bridgerie qui pourra permettre d'accueillir des conférences, des formations, des AG. Et c'est un besoin qui est identifié, qui a notamment été identifié par le Faubourg comme ce type d'espace avec une grande salle de plus de 120 mètres carrés. Est assez rare à Montpellier.
Ouais.
Donc un café culturel et citoyen, donc avec un accueil de traiteurs le midi qui vont proposer un plat unique avec des valeurs communes, notamment en termes d'approvisionnement local et raisonné.
Une cantine responsable, une réflexion sur l'approvisionnement, le type d'emballage utilisé, etc.
D'accord.
Voilà, un café en journée, aussi tenu par des bénévoles qui auront envie de faire exister ce lieu.
Ça, on en parlera tout à l'heure, du fonctionnement un peu éventuel.
Donc ce café culturel citoyen qui s'ouvre donc sur une programmation donc dans la grande salle, qui sera par moment mis à disposition pour des conférences, des assemblées générales, etc.
Ouais.
Et donc par moment, qui accueillera une programmation à la fois d'ateliers, de pratiques, notamment par exemple des ateliers parents-enfants le mercredi, et des temps de programmation artistique, ludique et citoyen. Donc c'est vraiment les 3 axes de développement. Une programmation artistique avec des petites formes théâtrales, des expositions, pas de concerts parce que le lieu ne le permet pas en termes de voisinage, mais d'autres propositions artistiques. Une programmation ludique, puisqu'il y a aussi des associations de jeux qui sont impliquées dans le projet, notamment les ateliers philosophiques, donc réfléchir au lien entre le jeu et la philosophie. Une programmation citoyenne, puisqu'en effet, le lieu a vocation à pouvoir accueillir des projets alternatifs, citoyens, qui ont besoin finalement d'espace pour exister. Nous, c'est un peu ce qui nous motive au départ. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'associations, d'entreprises d'économie sociale et solidaire qui ont envie d'exister dans des lieux. Et finalement, nous, ce qu'on propose, c'est le cadre, une coordination, une communication commune qui permet en fait d'accueillir des projets qui ont besoin d'espace et de public pour exister. Voilà.
Et c'est là où on recroise effectivement, je pense, les ambitions de la Carmagnole aussi.
Je comprends. Ok, d'accord. Alors vous avez choisi pour illustrer votre propos un morceau de musique. Je vous laisse le présenter.
Oh bah, juste un mot rapide, moi c'est une chanson qu'on écoute pas mal en ce moment, et quand on s'est dit tiens, cette artiste, donc Clara Luciani, qui a sorti un nouvel album et qu'on a écouté un petit peu ce matin avec Fanny, il y a une chanson qui parlait d'une femme qui se bat, et comme on est un petit peu en train de,
je comprends.
Voilà, de se battre pour faire exister ce projet, ça nous a parlé.
D'accord. Parfait.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Alors nous sommes aujourd'hui avec Marion Sourd et Fanny Ange-Albert, qui travaillent sur un projet de lieu alternatif dans le quartier Clémenceau, une nouvelle bridgerie, donc, même si c'est un nom provisoire. On a parlé un petit peu de l'historique et de la genèse de ce projet, et j'aimerais savoir maintenant où est-ce que vous en êtes, disons, sur le plan administratif, sur le plan financier, parce que j'imagine qu'il faut de l'argent pour monter un projet comme ça. Mmh. Voilà, que vous nous expliquiez un petit peu... comment vous vous en sortez? Où est-ce que vous en êtes?
Oui, bon, peut-être commencer par au niveau juridique, finalement.
Alors, Fanny, ouais.
Comment on s'est organisé autour de ce projet? Donc, c'est vraiment un projet qui a vocation à être coopératif. Coopératif entre différentes structures partenaires et éventuellement des habitants citoyens aussi engagés dans le projet. Donc, pour l'instant, on a créé une association de préfiguration qui aura pour but qui a pour vocation à être transformé en société coopérative d'intérêt collectif. Mmh. Donc l'intérêt de ce type de structure juridique, c'est de pouvoir mettre autour de la table différentes parties prenantes qui ont des intéressements finalement différents à avoir existé ce lieu. Donc des potentiels salariés, des potentiels bénévoles, citoyens engagés, voisins, mmh. qui ont envie de porter leur voix aussi dans ce projet. Des structures partenaires, donc des structures qui auraient des bureaux permanents dans ce lieu, ou des usages fréquents, comme c'est le cas de la cagette, par exemple.
Ouais.
Et puis des traiteurs aussi avec qui on travaillerait, donc ça a aussi pour objectif d'être un lieu tremplin potentiellement pour des traiteurs qui sont en train de s'installer ou des restaurateurs avant d'ouverture. Donc voilà, donc tous, finalement, on est tous réunis autour de cet intérêt commun de créer ce lieu. Voilà, donc ça a vraiment du sens pour nous, cette structure juridique en coopérative.
D'accord.
Sur le plan financier maintenant, voilà, on attaque le dur.
Ouais.
Donc on est sur un local qui nécessite pas mal de travaux pour pouvoir l'ouvrir et y faire les activités qu'on souhaite y développer, notamment pour répondre à toutes les normes actuelles ouais. d'établissements recevant du public, d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, etc. Donc on est sur une enveloppe d'à peu près 45 000 euros de travaux à notre charge, voilà, pour pouvoir ouvrir. Donc on compte à la fois sur la coopérative d'acteurs, donc avec des premiers apports en capital, et sur un emprunt bancaire. Donc on est assez confiante, on est accompagné sur ce volet-là par l'ERDI.
C'est quoi l'ERDI ?
Notre projet. Alors, c'est France Active, c'est une sous-structure de France Active, je crois, au niveau local, qui accompagne les entreprises de l'économie sociale et solidaire.
D'accord.
Et les petites, très petites et moyennes entreprises sur des projets sur lesquels il est difficile d'obtenir et exclusivement des
D'accord,
financements
okay.
bancaires.
D'accord.
Donc, voilà, pour des questions de risque ou de rentabilité. Limité, puisqu'on est quand même sur un modèle économique qui prend en compte un certain nombre d'activités non lucratives, avec un projet presque social derrière.
D'accord.
Donc forcément, on ne va pas pouvoir rémunérer des actionnaires sur ce projet, pour être très clair.
Je comprends. J'espère qu'eux aussi comprennent.
Donc on est confiante sur l'obtention des financements. On va aussi compter sur une campagne de financement participatif qu'on lancera d'ici très peu de temps. Pour nous aider à financer ces travaux avec du coup un calendrier, on espère, de travaux qui nous mèneraient à une ouverture en mars. Donc
d'accord.
Une ouverture au printemps.
Printemps 2019, d'accord.
Voilà. Avec d'ici là quelques temps forts encore qu'on va organiser, et puis notamment des chantiers participatifs aussi sur une partie des travaux.
Ouais.
Donc on fera appel aux énergies, aux savoir-faire des gens qui veulent nous aider pour construire différentes choses, repeindre des murs.
D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Ok, donc on va se projeter un peu dans l'avenir maintenant qu'on a une date approximative. Donc une fois que le lieu existera, il faudra le faire fonctionner. J'imagine que vous n'arriverez pas à le faire fonctionner toutes les deux. Ou bien alors c'est que vous avez beaucoup de bras. Mais donc comment ça va fonctionner ? Ce sera autogéré ? Ce sera comment ça va comment ça va être gouverné, on va dire ?
Alors, au niveau de la gouvernance, comme Fanny l'expliquait, à terme, donc d'ici un an, ce sera gouverné par une société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà, avec un fonctionnement coopératif qui réunira un tour de table d'acteurs, voilà, qui est déjà constitué d'une quinzaine d'acteurs et qui a vocation à s'élargir. Et aussi des représentants des habitants du territoire impliqués dans le projet. Voilà, on va dire que ça, c'est pour la gouvernance du projet, vraiment. L'aspect administratif,
les grandes décisions
qui vont gouverner, qui vont présider au fonctionnement du lieu.
Mmh.
Et après, dans le quotidien, on espère avoir une base salariée pour tout ce qui est gestion, administration, communication, coordination, animation de la coopérative, etc. Et un fonctionnement bénévole sur notamment tout ce qui est ouverture au public. Fonctionnement du café, programmation, et voilà, d'avoir aussi un noyau dur de citoyens engagés pour faire vivre ce lieu dans le quotidien sur les temps d'ouverture publique.
Donc vous serez présente, mais il n'y aura pas que vous qui serez présente, il y aura donc soit des bénévoles, soit une partie de salariés
voilà.
pour tenir le lieu ouvert et le faire vivre.
Oui, bon, après nous, on a vocation à assumer la co-gérance de ce lieu-là. D'accord. Au quotidien, l'administration, ouais. La communication, la coordination, etc.
D'accord.
Peut-être aux côtés d'autres personnes, à voir en fonction de l'équilibre du projet, on va dire. Et puis, en effet, sur certains points support et aussi sur la programmation, notamment, on a envie que ce soit une programmation participative, on fera appel, en effet, à du bénévolat pour assurer aussi la vie au quotidien. Puis aussi, en termes, évidemment, de participation, ça fait partie vraiment de
oui, parce que j'imagine que c'est un lieu que vous souhaiteriez voir ouvert tous les jours ou au moins toutes les après-midi ou toutes les fins de journée. Enfin, je ne sais pas trop quel est quels sont les créneaux horaires
aujourd'hui,
intéressants.
Aujourd'hui, c'est amené à évoluer parce qu'on va aussi tester au fur et à mesure.
Oui. Ouais, ouais.
Voilà, mais aujourd'hui, on imagine que le lieu donc sera ouvert au public, le côté café, le côté café-cantine sera ouvert tous les midis la semaine parce que aussi on s'est rendu compte que dans le quartier, il y avait beaucoup de restauration rapide,
oui.
Voilà, on a envie de proposer un autre type de restauration à prix raisonnable, mais avec de meilleure qualité.
Avec
des options végétariennes,
oui. Pas
etc. Donc tous les midis, la cantine. Le café en journée, aujourd'hui, on imagine ouvrir du mercredi au samedi.
D'accord.
Avec des journées phares qui sont quand même le mercredi et le samedi où il y aura vraiment des programmations toute la journée et trois soirs en semaine, le mercredi, jeudi et vendredi sur des créneaux pas tard, de 18h à 22h où on proposerait, voilà, fin d'après-midi, début de soirée où on proposerait en effet une petite programmation artistique, ludique et citoyenne sur ces créneaux-là. Donc ça fait quand même pas mal de temps d'ouverture en effet, et étant donné que ce projet a vocation aussi à soutenir des actions solidaires, citoyennes, de soutenir aussi, pourquoi pas, la création artistique. Et c'est évident qu'on a tout un volet de notre activité qui n'est pas du tout rentable et que ces ouvertures publiques, on ne pourra pas les assumer de manière salariée. Voilà, donc on compte vraiment là-dessus sur des citoyens engagés qui ont envie de partir dans l'aventure avec nous. Et pour l'instant, les premiers retours qu'on a sont...
Je pense qu'il y a des gens que ça va intéresser.
Dans ce quartier, une chose qu'on n'a pas dit quand même, c'est que ce projet-là, ce lieu-là, à un moment donné, on s'est dit, il faut y aller, il faut pousser malgré les difficultés. On est sur un bail privé, dans une copropriété, avec un financement complètement privé pour l'instant, sans subvention aucune à imaginer, en tout cas sur le démarrage du projet. Pourquoi est-ce qu'on insiste, pourquoi est-ce qu'on persiste? Parce qu'on sent qu'il y a aussi un besoin dans ce quartier-là, dans le quartier Clémenceau, autour de Clémenceau. Il y a le lycée à côté aussi, le lycée et le collège Clémenceau, avec beaucoup de partenariats, de projets à inventer. Dans ce quartier, il n'y a pas de maison pour tous à proximité, donc on entend aussi beaucoup des habitants, un lieu de vie, un lieu de convivialité, on en a besoin. Et puis une convergence aussi d'acteurs, le Faubourg, la Cagette et d'autres qui ont envie de voir exister un lieu comme celui-ci. Donc c'est ça qui nous conforte malgré les difficultés qu'on lève petit à petit dans le montage de projets, comme... tu peux l'imaginer.
D'accord, j'imagine, ouais. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, même si c'est très superficiel. On aura l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses dont on n'a pas parlé que vous souhaitiez aborder. Je vous laisse quelques minutes pour en parler, si vous le souhaitez.
Alors, peut-être dire un mot de la fabrique citoyenne, parce qu'on parle beaucoup l'investissement possible de citoyens engagés, des habitants, etc. Dire que nous, on a essayé de mettre en place des outils pour rendre possible cet engagement à différents niveaux, parce qu'on n'a pas tous le temps, les moyens, l'énergie de pouvoir s'impliquer quotidiennement dans un projet comme ça. Mais par contre, on imagine, on a envie de rendre possible cette participation à différents niveaux, et tous les niveaux étant équivalents en valeur. Et donc on a construit un outil qui s'appelle la fabrique citoyenne, dans lequel il y a trois types de participation, donc via le laboratoire, qui est un recueil d'idées, de propositions, de rêves pour ce lieu. Les gens peuvent nous laisser des idées, voter régulièrement. On organisera des consultations. La première, c'est quel type d'activité, de pratique artistique ou développement personnel, etc., j'aimerais voir exister dans le lieu. Il y a une consultation sur le nom du futur lieu. Et régulièrement, on essaiera de de mettre au vote différents aspects du projet. Donc ça, c'est le laboratoire et c'est aussi le lieu où les gens peuvent nous proposer, bah tiens, moi j'ai des compétences en tricot et j'aimerais animer bénévolement un atelier tricot pour les habitants du quartier. Bah super, voilà. Y a l'atelier, ça c'est pour les gens qui veulent un peu plus relever les manches et venir participer avec nous au projet, donc devenir bénévole régulier ou ponctuellement, voilà, être tenu au courant des chantiers participatifs, etc. Réfléchir aussi dans des groupes de travail de façon plus, plus détaillée au devenir de ce projet. Et enfin, il y a le coffre. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent nous soutenir de façon plus... c'est la cagnotte, en fait. C'est ceux qui veulent
contribuer. C'est un joli nom, le coffre.
Le coffre, oui, on ne savait pas trop. On était dans, dans une maison un peu où il y aurait un laboratoire, un atelier. Puis bon, le coffre, le grenier, on ne sait pas. C'est pour nous aider soit financier, par un don financier, soit par des dons de matériel aussi, parce qu'on va aussi faire pas mal de récup. Parce que bah, on les a pas cités hein, les valeurs du lieu qui ont été définies par pour le moment par les premiers coopérateurs, mais dans ces valeurs il y a des valeurs donc on l'a dit de mixité, de solidarité, il y a aussi des valeurs d'éducation populaire et il y a un volet fort aussi sur tout ce qui est écologie à travers l'alimentation, mais aussi voilà à travers tout ce qui est anti-gaspi, lutte contre les déchets, etc. On a l'ambition, et parce que c'est aussi une contrainte économique pour limiter les dépenses, mais aussi parce qu'on y croit, de meubler au maximum ce lieu via de la récupération et du don.
Bien sûr, il y a ce qu'il faut à Montpellier, je pense, dans ce domaine-là.
Voilà.
Ok, ben peut-être que pour finir, ça serait bien alors de nous dire si vous avez justement besoin de choses, nous donner une adresse, peut-être un numéro de téléphone, une adresse mail, savoir où on peut vous joindre, comment on peut vous aider, et l'adresse du lieu peut-être aussi.
On va faire d'une pierre deux coups, parce que notre adresse mail, c'est l'adresse du lieu, donc c'est facile, c'est 30 rue Ballard. @gmail.com. Donc voilà, c'est l'adresse à laquelle on peut communiquer.
Alors 30 rue Ballard, ça s'écrit RUE BALARD. C'est ça.
Voilà, okay. Ballard qui était un scientifique, un pharmacien.
D'accord.
Qui a découvert des choses.
Des choses intéressantes.
Donc
l'adresse, c'est l'adresse mail. J'imagine que si on veut vous joindre, ben, c'est pas à travers le mail.
À travers le mail, pour avoir plus d'informations, donc via la page Facebook La Nouvelle Bridgerie non provisoire.
D'accord.
sur lequel on essaie de communiquer les dernières actualités. Il y a également un site internet, très mal référencé pour le moment, mais on devrait s'améliorer, qui explique le projet, quels sont les premiers coopérateurs, les valeurs et la fabrique citoyenne, comment s'impliquer.
D'accord.
Donc pareil, la nouvelle bridgerie qu'on peut trouver assez facilement via Facebook. Alors je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Facebook.
C'est pas grave.
Les outils sont en cours.
Il faut pour le développement.
On parle d'un projet, on en reparlera quand le lieu fonctionnera. Je vous réinviterai pour en parler, parler de son fonctionnement. Je vous remercie beaucoup toutes les deux et je vous dis à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.